La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles en Luc 18 et Ésaïe 43. Et Raphaël Rodé nous lira les différents passages qui sont affichés.
Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, sans se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis. Alors qu'ils crient vers lui jour et nuit, il les ferait attendre, je vous le dis. Il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est moi seul, qui suis le Seigneur. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et dit, ce n'est pas un étranger parmi vous, vous êtes donc mes témoins, déclaration du Seigneur. C'est moi qui suis Dieu.
Bien, frères et sœurs, dans les lieux de culte, il est naturel d'entendre parler de Dieu. Quoi de plus légitime pour les croyants censés se rassembler selon leur tradition, de rendre un culte à Dieu dans un lieu qui leur est dédié, c'est l'Église aujourd'hui, mais d'autres croyants se retrouvent dans un temple, dans une synagogue ou dans une mosquée. Lieu de culte. Mais en dehors de ces lieux de prière, nous pouvons entendre des voix s'exprimer, elles aussi, mais avec une autre tonalité. D'ailleurs, dans une société où la parole religieuse est celle de la majorité des citoyens, les propos des croyants sont généralement des paroles respectables et convenues. Mais dans notre société occidentale, même de tradition judéo-chrétienne, les paroles des citoyens sur les croyants n'ont pas la même retenue. Et nous en sommes témoins chaque jour dans notre société. Je pense au célèbre humoriste Guy Bedos qui a affirmé, voici quelque temps avec malice, « Mon Dieu, délivrez-nous de toutes les religions ». Nous vivons dans une société où nous découvrons l'athéisme militant, Michel Onfray, ou l'athéisme transcendant, Luc Ferry, André Comte-Sponville. Et notre société révèle fortement qu'il est possible, aujourd'hui, de vivre sans Dieu, sans subir les foudres des religieux et du pouvoir. Là encore, nous devons, semble-t-il, nous écarter des analyses réductrices. C'est vrai qu'il y a effectivement un retour du religieux qui ne cesse de se répandre en raison des flux migratoires et de la venue de certaines personnes dans nos territoires. Mais nos sociétés dites modernes facilitent pourtant un vécu sans Dieu. Nous sommes ainsi ballottés, ou notre société est ainsi ballottée, entre une volonté de s'émanciper de l'attraction religieuse et un retour du religieux, y compris un retour de l'irrationnel. Bien entendu, cette tension était prévisible. Le traitement entre l'attrait de la spiritualité et le retrait de la foi traditionnelle s'est souvent imposé. Et si l'on consulte, par exemple, des sondages en 2010, 63% des Français ne s'identifiaient à aucune religion, alors qu'aujourd'hui, le pourcentage est monté à 70%. Vivre sans Dieu ne signifie pourtant pas que l'homme a cultivé son incroyance depuis les Lumières et que l'homme soit devenu athée depuis 1789, mais notre responsabilité de chrétien au sein de notre Occident, au sein de notre société, est de témoigner de notre foi dans tous les milieux, comme d'ailleurs on nous le rappelle souvent, la mission fait partie de la vie chrétienne, mais, car il y a un mais, si nous voulons être pertinents, précis et crédibles sur la prophétie biblique, sur les commentaires de cette prophétie, il est nécessaire de comprendre notre environnement pour mesurer le besoin, les besoins des uns et des autres. Entre ceux qui croient au ciel, la minorité dans notre société, et ceux qui n'y croient pas, la majorité, il y a d'énormes différences. Le problème, c'est que nous croyons que les autres ont les mêmes critères que nous, que les autres sont aussi des croyants, et nous leur parlons avec des mots, avec un vocabulaire, avec des expressions, avec un état d'âme qui est un état d'âme chrétien. Et ce n'est pas parce que l'évangélisation est difficile en France que nous sommes appelés à taxer nos contemporains de mécréants. Difficile, mais pas impossible, puisque si l'on regarde la croissance de notre Église, la croissance de l'Union pour l'année 2017, elle a été de 3,17%, avec 583 nouveaux membres pour les fédérations, qui s'est traduit par 416 baptêmes durant une année. Et dans notre environnement, pour être précis, il nous faut faire des distinctions, sans entrer dans des amalgames. Nous devons distinguer, par exemple, entre les athées et les agnostiques. L'athéisme, c'est la négation de Dieu. Dieu n'est pas, il n'existe pas, donc on n'en parle pas. Et il est impensable de parler de quelqu'un qui n'existe pas. Ça, c'est l'athéisme. L'agnosticisme, c'est ne pas avoir la connaissance de Dieu. Les agnostiques disent « je ne sais pas ». Par conséquent, les agnostiques se montrent prudents. Mais malheureusement, le problème de cette prudence dérive en indifférence. Indifférence à l'égard de Dieu, indifférence à l'égard des valeurs spirituelles, indifférence à l'égard de la religion et des croyances. Mais cette indifférence à l'égard de la religion et des croyances, mais cette indifférence glisse vers le scepticisme. Aujourd'hui, en France, nous ne baignons pas dans une société athée, mais nous côtoyons souvent, au métro, dans notre travail, au lycée, à travers les enseignants, etc., nous côtoyons souvent des personnes qui sont agnostiques et sceptiques. C'est donc la majorité des habitants de notre pays. Devant cette difficulté, je remarque aussi qu'on pourrait penser qu'il est préférable, dans l'évangélisation, de se tourner vers les autres croyants. Certains pensent que ces autres croyants seraient de meilleurs chrétiens s'ils acceptaient nos croyances spécifiquement adventistes. Et nous pensons, certaines personnes pensent, que le témoignage consiste à prouver que ces croyants sont dans l'erreur alors que nous sommes dans la vérité. Et par conséquent, s'ils sont dans l'erreur, ils ont tort. Et toutes les relations que nous avons avec les autres croyants, c'est de leur prouver que nous avons raison et qu'eux sont dans l'erreur. Et selon les études récentes de critères établis par un célèbre institut de sondage, la France serait le quatrième pays le plus réfractaire à la religion, après la Chine, le Japon et la République tchèque. Quatrième pays dans le monde. Nous sommes ainsi ballottés dans une société qui, tout en favorisant une neutralité à travers la laïcité, amplifie l'indifférence par l'agnosticisme. C'est en tout cas le premier constat que je pose ce matin. Souvenez-vous du texte qui nous a été lu dans l'évangile de Luc, un texte qui fait partie de l'enseignement que Jésus délivre à ses disciples, en illustrant par une histoire de confrontation d'une veuve et d'un juge. Et le seul aspect que je fais ressortir de cette parabole, de cette illustration, c'est le suivant, c'est que le juge cède à la requête de la veuve, non pas par application du droit, mais simplement pour ne plus être importuné par cette femme. C'est une motivation curieuse, révélatrice d'un jugement arbitraire. Et si nous avions lu le texte dans la NBS, Nouvelle Bible Second, eh bien, le juge dit « Je vais lui rendre justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » La précision qui nous est donnée au verset 4, c'est le raisonnement de ce juge, un homme sans Dieu, qui souligne sa pensée « Bien que je ne craigne pas Dieu ». Voilà quelque chose de surprenant à cette époque, puisque nous étions là dans une société juive où la foi religieuse et la croyance se vivaient dans le judaïsme depuis l'origine du monothéisme. Du côté du christianisme primitif, c'est-à-dire du christianisme naissant avec l'implantation des nouvelles communautés chrétiennes qui vont un petit peu s'éparpiller dans le bassin méditerranéen, les Romains traitaient souvent les adeptes de cette secte d'athées, simplement parce que les chrétiens, nouvelle religion, christianisme, refusaient la pléiade des divinités romaines. Par conséquent, s'ils refusent de mettre un dieu parmi cette pléiade de divinités romaines, ce sont des athées. Cette indifférence du juge vis-à-vis de Dieu est similaire à celle de nos concitoyens, c'est ce que je veux faire apparaître ce matin. Souvenez-vous, 70% des Français ne croient pas en Dieu. Et pourtant, les circonstances de la vie peuvent amener les hommes à modifier leur regard, leur comportement, en s'approchant de Dieu, même s'ils s'éloignent des hommes. Vous savez qu'un jour à Paris, Voltaire se trouvait avec l'un de ses amis croyants. Nous sommes en 1750, Voltaire a 56 ans, et voilà que passe une procession catholique, le Saint-Sacrement, et son ami se découvre, et son ami voit qu'avec étonnement, Voltaire fait pareil, Voltaire se découvre. Et du même coup, il interpelle Voltaire, et il lui dit « Mais je suis surpris, je vous croyais un homme sans Dieu. » Et Voltaire de répondre « Dieu, nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. » Voltaire était agnostique, non pas athée, mais agnostique. Pas de preuve de l'existence de Dieu, incertitude sur Dieu. Je n'en parle pas, je me retire. Vous savez que deux livres de la Bible nous parlent de l'expérience du même homme. Dans le deuxième livre des Rois et dans le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 21 pour le premier, le chapitre 33 pour le second, et nous sommes là en présence d'un personnage qui accède au trône à l'âge de 12 ans. Il n'a pas la maturité pour devenir roi, mais les circonstances font qu'il devient, en Israël, à Jérusalem, c'est Manassé. Et pendant longtemps, très longtemps, trop longtemps, Manassé se détourne de Dieu. Et il fait le contraire de son père Ézéchias. Les textes, dans ces deux livres, nous apprennent que Manassé bâtit des hauts lieux. Il éleva des autels pour une variété d'idoles. Il transforma la maison du Seigneur en multipliant les abominations. Il fait venir des médiums. Il pratique la sorcellerie. Il les autorise à la divination. En quelque sorte, Manassé fit l'opposé de la notion de sacré que David et Salomon avaient interdit dans le temple de Jérusalem. Et ces actions finirent par égarer les habitants de Jérusalem à tel point que le rédacteur de ces deux livres, Roi et les Chroniques, est dans l'obligation de préciser que les habitants de Jérusalem firent plus de mal que l'ensemble des nations païennes qu'ils avaient combattues. Et le livre des Rois s'attarde longuement sur les erreurs de Manassé et sur la sentence de Dieu. Quant au livre des Chroniques, lui, il va préciser avec 6 versets, en réalité, toute la prise de conscience de Manassé. On veut aussi nous montrer par là que dans la vie, rien n'est perdu. L'homme peut s'éloigner, peut se détourner, peut blasphémer, peut renier Dieu, mais rien n'est irrévocable. Les circonstances peuvent changer parce que l'homme a une conscience. Il peut subitement se rapprocher de l'invisible et reconnaître son Dieu. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, par exemple, et chapitre 33 et à partir du verset 12, 2 Chroniques 33, verset 12, lorsqu'il fut, il s'agit de Manassé, dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Intéressant à travers cette histoire, cette expérience, Manassé s'est donc souvenu des paroles de Dieu transmises en Israël, répétées par différentes familles sur le fondement du monothéisme. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul éternel. Et dans cette perspective-là, seul l'insensé, le fou, traduit certains, l'insensé peut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Vivre aujourd'hui sans Dieu est une réalité, frères et sœurs, pour la majorité de nos contemporains. On peut vivre sans Dieu pour plusieurs raisons. On peut l'avoir oublié, comme on peut l'avoir rejeté. Cela ne signifie pourtant pas que l'on s'écarte des valeurs morales, mais cela signifie surtout le refus de toute appropriation de l'être humain à l'égard d'une transcendance. Et si l'on analyse les raisons des agnostiques, car il y a des raisons, Cela commence toujours par une forte déception. Déception des personnes, comme déception des valeurs chrétiennes, de l'enseignement ou des comportements. Déception de l'administration ou de l'organisation de l'Église, quelle que soit cette Église. Et l'on arrive à critiquer les outils que l'Église met à la disposition de ses fidèles, les enseignements de la Bible. Et de ce fait, un bon témoin de la foi chrétienne serait d'amené à penser ceux qui refusent de s'interroger. D'autant que les textes, notamment le psalmiste, nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. En fait, c'est l'Ecclésiaste, c'est Salomon. Michel Onfray, qui est l'un des leaders, non pas de l'agnosticisme, mais de l'athéisme en France, a dit « L'athée que je suis ne juge pas autrui sur le fait qu'il croit ou non en Dieu, mais sur ce qu'il fait de son athéisme ou de sa foi. » C'est dire déjà, frères et sœurs, toute la responsabilité que nous avons, parce que l'homme, sans Dieu, conserve en lui, au plus profond de son être, une fibre sensible à une dimension de spiritualité. C'est d'ailleurs toute la responsabilité que nous avons dans notre foi, qui est vue par notre entourage. La foi n'est pas à confondre avec la superstition, et la foi dans les miracles du Christ ou de Dieu n'est pas à confondre avec de la magie. Dans notre témoignage de vie, parce que le christianisme se produit toujours par des actions et par des comportements. Ces comportements, ces actions ne sont pas à confondre avec de la manipulation. Notre responsabilité dans l'enseignement, c'est-à-dire dans les explications que nous donnons, dans les commentaires que nous faisons sur la révélation biblique. La révélation biblique n'est pas à confondre avec un mythe ou avec le développement de l'imagination de ceux qui nous ont précédés. Bien sûr, l'homme peut vivre sans Dieu, ne serait-ce que physiquement. Il peut vivre et évoluer dans un humanisme remarquable. Et nous pourrions énumérer toute une série d'actions révélatrices du dévouement, de la disponibilité d'hommes et de femmes qui se donnent véritablement à une cause, à un idéal. Nous n'avons pas le droit de sous-estimer leur sincérité, leur loyauté, de remettre en question leurs actions, leurs comportements, sous prétexte qu'ils vivent sans Dieu. Mais cette manière de vivre n'est pas toujours complète. Même si ces personnes ne sont pas conscientes qu'indirectement, elles portent en elles des valeurs chrétiennes qu'elles ignorent. Elles se disent vivre sans Dieu alors qu'elles peuvent développer l'empathie et la compassion dont Dieu, lui, est à l'origine. Et il faut souvent le leur dire, ce n'est pas parce qu'il existe des accidents de la route et des conducteurs irresponsables que nous devons prendre la décision de ne plus conduire. Ce n'est pas parce que certains mélangent la foi et la superstition dans les églises, ou que certains développent, déforment et développent manifestement un Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui ne correspond pas aux Écritures, que nous sommes appelés à nous détourner de ces outils et de ces valeurs. Et cela implique pour nous, frères et sœurs, la responsabilité d'être en mesure de recevoir des gens de l'extérieur, c'est-à-dire de permettre à ceux qui vivent sans Dieu de comprendre avec lucidité la foi les valeurs et l'enseignement dont notre Église s'honore. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il est midi, quelque part, au Portugal, et plus précisément dans une église, les membres d'église reçoivent la visite du président de la République portugaise. C'est un témoignage où quelqu'un va assister à un service liturgique. Et nous avons constamment dans notre vie des occasions précises pour nous permettre en tout cas de ressembler ou d'actualiser les paroles que vous avez sur votre gauche, sur ce mur, ici, au niveau de l'église qui est ouverte et qui est un lieu public où les personnes extérieures peuvent se retrouver ici sans a priori. Alors, vivre sans Dieu quand le Fils de l'homme viendra, la question qui était posée était simple. Dans Luc, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et beaucoup plus tard, après ces paroles, l'apôtre Paul va lui répondre dans un chapitre des Corinthiens, lorsqu'il dira maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, dira l'apôtre Paul, c'est l'amour.